stops you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Anaël Pijat, Corinne Rondeau et Stéphane Coréard à notre affiche Préhistoire, une énigme moderne. C'est jusqu'au 16 septembre au Centre Pompidou, Georges d'Orignac, corps et âme. Jusqu'au 8 septembre au Musée de Montmartre, Jérôme Zonder, portrait jusqu'au 29 juin aux Beaux-Arts de Paris. Puis il y aura un coup de cœur d'Anaël Pijat pour Contrepoint contemporain, Alex Katz et Monet. Ça se passe au Musée de l'Orangerie. Et nous ouvrons cette émission avec Préhistoire, une énigme moderne. C'est jusqu'au 16 septembre au Centre Pompidou, je l'ai dit, à Paris. Les commissaires en sont Cécile Debray, Rémi Labrusse et Marie Stavrinaki. La scénographie signée Pascal Rodriguez. L'idée de cette vaste exposition est de chercher à comprendre pourquoi, de la seconde moitié du 19e siècle à l'avènement de la modernité, même jusqu'à nos jours, des artistes aussi différents que ceux présentés dans cette exposition du Centre Pompidou ont été aussi sensibles à cette énigme des origines de l'humanité. On verra aussi l'importance de la découverte de l'art pariétal, mais aussi des œuvres sculpturales du paléolithique sur la production des artistes du début du XXe siècle. Beaucoup de choses à dire, mais pour l'instant, une première chose à dire, un premier commentaire sur cette exposition, commentaire que vous développerez ensuite, Corinne Rondeau.
L'émission à voir absolument.
L'émission ou l'exposition?
L'exposition, pardon.
Alors l'exposition. L'émission à écouter absolument.
Non, c'est la fatigue.
La dispute.
Non, mais c'est vraiment l'exposition qu'il faut voir.
Bon, je partage tout à fait ce sentiment. Stéphane Coréard.
Oui, moi je le partage aussi. Je dirais que c'est une exposition en partie sublime, mais pour moi dont le ratage reste une énigme.
Ah, Anaël Pijat.
L'excitation des sens et de l'esprit.
Alors Corinne Rondeau, avec qui je suis entièrement d'accord, l'exposition à ne pas rater,
oui.
Pourquoi?
D'abord parce que il était inattendu que cette exposition ait eu lieu à Pompidou, déjà. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, non, c'est pas l'endroit où cette exposition doit avoir lieu. Et en fait, je crois que c'est au contraire ce qui sauvera Pompidou de sa fonction d'exposer, de la penser avec des objets. Parce que je trouve que la réunion du musée et des chercheurs, parce qu'il y a des historiens et pas qu'une conservatrice avec et directrice de l'orangerie, Cécile Debray, c'est une matière à vraiment remettre les objets en jeu dans d'autres types de relations que simplement l'exposition. Là, je trouve qu'il y a un vrai sens de l'exposition ici, et justement c'est pas sur du nom propre que ça se fait. Ça se fait sur une époque, mais une époque qui n'est pas loin de nous, qui par bien des aspects réactive finalement la question des temps apocalyptiques à travers la préhistoire, lorsque ça a été les fouilles ont révélé ce temps et cet abîme du temps avec moins 36 000 ans, avec le paléolithique, enfin toute cette manière de nous faire revenir du temps. je trouve que c'est vraiment un travail formidable qui a été fait en termes d'idées, de conception, de scénographie. La scénographie est éblouissante. Elle nous prend quand même tout de suite dans les tibias. Une obscurité en termes de prologue, un crâne qui vient du muséum.
Qui semble flotter hein,
dans le noir, parce qu'on noir, passe de la lumière à cette pénombre très forte. Donc en fait, on a deux points lumineux qui sont d'abord un crâne qui vient du muséum d'histoire naturelle qui est de moins 26 000 ans. Et puis, à quelques mètres plus loin, un tout petit Paul Klee, qui est en fait une stratification d'un plâtre, d'un tissu et d'un contreplaqué. Et en fait, vous avez du temps et de l'espace en même temps. Et je trouve que rien que ces deux points qui m'ont un peu déséquilibré en rentrant dans cet espace qui est comme un goulot, c'est le début de la caverne, j'ai trouvé que c'était exactement juste quand on finit l'exposition en se disant c'est une entrée qui m'a contrite, mais c'est une entrée qui ne pouvait pas être autre chose que du temps et de l'espace, qui est quand même, je dirais, les deux éléments fondamentaux de l'art, du temps et de l'espace, comment on crée de la forme, et en même temps on commence avec un crâne, on commence avec l'homme, on commence avec la matière, aussi avec Paul Klee, qui est une superposition d'un signe abstrait, là, posé dans un tout petit format, très bien éclairé, et le signe est aussi celui de la caverne, qu'on va redécouvrir a posteriori, et tout au long.
Alors, c'est vrai que les lumières sont particulièrement remarquables. Je cherchais l'information parce que des fois c'est indiqué dans les différents dossiers. Je vais regarder ça. Alors, Stéphane Coréard, dans son préambule, nous a laissé entendre que cette exposition, certes, l'intéressait, mais qu'elle était ratée.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Corinne Rondeau. Et la première moitié de l'exposition est assez remarquable. Notamment effectivement le début qui est vraiment fascinant à plusieurs égards. Il y a effectivement cette œuvre de Klee qui est, je trouve, très originale, entrée en matière. Ensuite, la première vraie salle, je dirais, confronte trois toiles de Cézanne particulièrement bien choisies, qui plus est, et des œuvres graphiques d'Odile Redon. Donc là, on est vraiment dans un ailleurs, y compris un ailleurs de l'histoire de l'art. On a l'impression qu'on va rentrer dans un propos extrêmement original, une vraie vision de cette histoire du XXe siècle, ce qui se confirme dans la première salle, grande salle, qui est globalement dévolue, on va dire, au surréalisme. Là, c'est un peu plus convenu. On tombe sur Picasso. Bon, c'est des choix d'œuvres remarquables, etc. Pour moi, le mystère de cette exposition, l'énigme, s'il y en a une, c'est qu'il y a deux expositions en une. C'est-à-dire qu'il y a cette première partie globalement moderne, qui est assez remarquable, quoique pas toujours très originale. Et puis la deuxième partie totalement contemporaine, qui là m'a laissé pantois, avec des choix d'œuvres que j'ai trouvé vraiment extrêmement étrange, voire contestable.
Comme
une installation, par exemple la dernière vidéo de Pierre Huyghe, qui à mon avis n'a strictement rien à voir avec sujet.
Elle est déjà assez ancienne
et on l'a déjà
beaucoup
vue. Elle a
été montrée dans différents lieux, même si certains la découvriront
et
là.
Je ne comprends pas ce qu'elle vient faire dans cette exposition.
Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle n'est pas
comme
forcément.
Je trouve que ça se gâte dès qu'on rentre dans la dernière grande salle qui est, je crois, est dédiée au néolithique. Il y a ce grand parallélépipède rouge de Jean-Pascal Flavien. Qui n'a absolument. Alors là, je trouve que ça casse totalement l'ambiance, si je puis dire. En plus, du coup, la pièce des Chapman, il y a une grande installation des Chapman qu'on a déjà vue, très bien installée. Là, elle est totalement repoussée contre le mur. Enfin, je trouve que la partie contemporaine, à mon avis, ne fonctionne pas. Et on le voit aussi, justement, dans cette salle, la première salle néolithique, que l'alchimie, effectivement, de ces commissaires qui sont d'un côté conservateurs de musée, de l'autre côté universitaires, fonctionne par moment, mais par moment, l'exposition est vraiment trop hétérogène. Il y a des salles où on voit que chacun a voulu faire ses choix qui se juxtaposent.
Pour rebondir immédiatement sur ce que disait Stéphane, effectivement, il y a quand même des très très belles œuvres contemporaines, comme par exemple la pièce de l'œuvre de Tacitadine, qui est une photogravure d'un paysage lunaire. Il y a les images de Dove Alouche aussi, qui sont des plaquettes de minéraux, de gypse, qui sont agrandies et qui donnent lieu à des paysages là aussi abstraits, mais absolument magnifiques. Donc il y a aussi, il y a deux temps un peu différents dans cette partie contemporaine. Une plus stridente, plus ironique peut-être, et l'autre plus contemplative, avec la salle de Tacitadine et d'Avalouche. Pour revenir aussi au début de l'exposition, il y a un autre aspect que je trouve très remarquable dans la première salle aussi, c'est la coexistence de ces deux temps, et c'est en fait le temps de la préhistoire et le temps moderne qui sont cette espèce de double fil chronologique qui ne cesse de se croiser et de s'éloigner dans le fil de l'exposition, et toute la réflexion réflexion qui est menée sur le temps dans l'exposition me semble absolument originale et remarquable. Le mélange entre le passé et le futur aussi, la découverte des fossiles au moment de l'âge industriel, de la découverte de l'âge industriel, qui permet d'évoquer la fin, qui permet d'évoquer le futur de la disparition à partir d'objets qui sont ancestraux. C'est une des réflexions qui m'a beaucoup intéressée aussi. Il y a dans l'exposition un certain nombre de fils qui sont tirés, qui effectivement sont parfois dissonants, sont parfois contradictoires, mais qui sont souvent très originaux. Il y a ce travail sur les rapports d'échelle dans une très belle salle de sculpture où se mêlent des sculptures préhistoriques et des œuvres modernes. Par exemple, la Vénus au gaz qui voisine avec l'œuvre de Picasso, qui voisine avec l'œuvre de Miro, et qui est mise en, et des galets de Picasso qui sont gravés par Picasso tout petit dans une vitrine et totalement magnifiés par les images de Brassailles. C'est aussi une exposition qui s'étend sur des territoires très variés, celui des arts visuels, mais aussi de l'architecture, du design et du cinéma, avec très souvent des découvertes et des mises en avant d'œuvres assez inattendues. Par exemple, les carnets d'Yves Klein sur un projet de film qu'il a eu qui s'intitulait La guerre et qui n'a jamais été réalisé, qui était La guerre entre le dessin et la couleur, qui date de 1950 et qui commence à la préhistoire.
Non, mais alors c'est vrai que cette exposition est d'une telle richesse. Moi, je suis allé pour l'instant deux fois et je suis loin d'en avoir fait le tour, même si les deux fois, j'ai fait plusieurs allées et retours dans les salles d'exposition parce qu'elle nous sollicite à de multiples façons, avec des documents. On n'a pas parlé des œuvres ou des vestiges qui sont parmi parfois les plus émouvants. La Vénus impudique, enfin, il y a des pièces qui sont... Cette Vénus impudique dont je parle, elle fait quoi? Elle doit faire 7-8 cm de haut et de large. Et vraiment encore souligner encore une fois la qualité de l'éclairage dans l'exposition à tous les endroits de celle-ci, mais des sollicitations juste après cette Vénus. Il y a une salle qui mêle là encore des objets issus de fouilles archéologiques et des petits objets ou des petites statues parfois de Beuys que moi j'avais quasiment jamais vu. C'est-à-dire qu'aller chercher quand même des pièces qui sont pas les plus connues. Alors il y en a certaines, il y a l'anthropomorphie d'Yves Klein, mais qui est très très bien venue dans cet espace-là. Toute la question des mains négatives et positives, et ça passe par des tas d'artistes. Moi j'ai trouvé que c'était que ce dialogue entre universitaires, historiens et historiens d'art fonctionnait à plein.
Non, moi je dis encore que c'est l'exposition à voir parce que non, mais je si. Trouve qu'elle n'a pas que l'intelligence de sa proposition préhistoire.
Ben, généreuse.
Elle n'est pas que généreuse grâce au choix d'œuvres. Et vous avez raison, Stéphane, quand vous parlez des Cézannes, c'est pas les Cézannes qu'on voit et on voit la stratification, on voit la fossilisation. On a l'habitude de voir la verticalisation du tableau chez Cézanne, mais là on voit vraiment la roche. Et la question de l'imaginaire que fait renaître ces créatures que je recherchais invraisemblable d'Odilon Redon, sont aussi là, parce que c'est la naissance aussi de l'imaginaire à travers ces fouilles qui se font au temps où la modernité se met en œuvre. Mais c'est aussi l'exposition à voir impérativement, parce que je trouve qu'elle fait éclater le cadenas. Tout à l'heure, je parlais des expositions avec des noms propres. Et on en a ras-le-bol de faire venir des gens. On en a ras-le-bol de faire venir des gens sur des noms propres, dont on n'a pas toujours ce qu'on attend après le nom propre. Pourquoi je dis? Parce que je trouve que c'est l'exposition la plus contemporaine qu'on ait sur la place parisienne et même peut-être nationalement et peut-être international. Parce que justement, ce que vous évoquez comme plaisir de la visite, où on n'a jamais l'idée de qu'elle est finie, même si je suis d'accord avec la partie contemporaine qui m'a fortement déplu, mais ce qui est sûr, mais c'est bien fait, hein, je veux dire, c'est bien fait, mais c'est la question de l'anonymat. Les artistes, les 10 grands artistes qu'il y a, vous ne voyez plus leur nom. Il y a une salle comme ça où on a 16 pièces, toutes d'une taille approximativement égale, des petites pièces, et on pense qu'en fait c'est des objets de fouilles, des silex, et il y a une seule pièce du paléolithique. C'est tout. Et après c'est du Beuys, du Matisse, et on se dit... Mais par pitié, merci de nous faire voir en fait ces choses qui sont ni outils, ni œuvres d'art, ou les deux à la fois. Ce qui fait que d'un coup, la question de l'art se pose comme l'homme comme producteur et expression de créateur. de créativité, voire de créature, mais jamais en termes de statut d'artiste. Parce que, évidemment, la question du statut d'artiste qui arrive un peu vers la fin, qu'on peut arriver à voir notamment avec le film de Pierre Huyghe, que je trouve pas du tout à sa place, mais malgré tout, il ramène une animalité, peut-être, qu'on pourrait dire ici avec des masques, puisqu'il y a des questions de masques aussi qui peuvent être en jeu. Mais je trouve que la question de l'anonymat est un réveil, si vous voulez, dans le champ de l'art et de l'exposition. C'est-à-dire qu'on est confronté à des mises en relation formelles. Et comme l'histoire de la préhistoire, c'est l'abîme du temps, et dont la question n'amène qu'une question et qu'on n'a pas la réponse, c'est aussi nous rappeler que l'art n'est pas là pour nous faire des férus de connaissances et d'intelligence. Et au contraire, comme le rappelle Maria Stavrinaki en parlant de Buffon dans son formidable livre « Saisi par la préhistoire, enquête sur l'art et les temps des modernes auprès du réel », c'est que Buffon finalement disait qu'il y a plus d'intelligence au bout des doigts que l'intelligence elle-même cérébrale. Et qu'il y a une citation aussi de René Char qui dit ben, l'homme de l'espace aura un milliard de fois moins d'intelligence que l'homme du paléolithique, enfin bon. Mais lumineux, un milliard de fois moins lumineux que l'homme
des cavernes.
Des cavernes. Je trouve que c'est absolument formidable, 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 je dirais. C'est la fabrique de l'inconnu et c'est la fabrique de l'art qui est dans cette expo.
Amel Pigeon.
Elle est très stimulante, cette exposition, parce qu'elle repose sur beaucoup sur une très grande érudition aussi. On croise, la partie documentaire est absolument formidable, et on croise un certain nombre de figures, comme par exemple l'archéologue Frobenius, qui est un personnage très ambigu, qui est l'auteur des relevés de grottes du Zimbabwe monumentales, qui d'ailleurs ont été présentées en 1947 dans une des premières expositions sur la préhistoire, qui a eu lieu à l'ICA de Londres, en 1938 au MoMA et en 1947 à l'ICA de Londres. Et ce sont des relevés de grottes du Zimbabwe qui sont d'une abstraction vraiment très surprenante. On a l'impression de grandes mains, c'est très monumental. Il y a juste à côté le relevé du plafond d'Altamira aussi, fait par Frobenius également, et dont on apprend que c'est un personnage au fond très ambigu, qui a beaucoup inspiré les artistes modernes, mais qui lui-même n'était pas forcément un progressiste total. L'exposition en fait a énormément de facettes. Elle a aussi une dimension politique qui est tout à fait passionnante. Et dans le même livre que vous citiez, Corinne, Maria Stavrinaki, à propos du néolithique, a des interprétations tout à fait intéressantes qu'on voit dans la salle qui précède celle dont vous parliez, Stéphane, dans laquelle on voit deux visions du néolithique rapprochées par les artistes minimalistes de l'âge du minimalisme, parce que le néolithique, ce sont ces formes lisses, mais c'est aussi l'agriculture, c'est aussi la production qui est rapprochée de la production industrielle. Et donc dans cette salle consacrée au néolithique, on voit d'un côté un néolithique considéré par les Anglais, par Paul Nash par exemple, qui est une vision assez nationaliste au fond de la préhistoire, et de l'autre côté une vision beaucoup plus intérieure du néolithique, par exemple avec des sculptures de Giacometti et cette femme feuille, très lisse, absolument merveilleuse.
Oh, la main de Giacometti sous cette forme sculpturale, géométrique, tout à fait fascinant. J'y suis encore. Stéphane Coréard.
Alors moi, je souscris totalement à ce qu'a dit Corinne Rondeau, et néanmoins, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Anaël Pigeat, parce qu'il y a des choses qui m'ont fondamentalement quand même dérangé dans l'exposition. Par exemple, la présence de ces reconstitutions, enfin de ces relevés d'étoiles parfois de 10 mètres de long, qui sont des facsimilés, pour moi, parasite totalement l'exposition. Justement, aussi bien le rapport sensible qu'on peut avoir avec les sculptures.
Et c'est pas ce qu'il y a de plus beau.
Surtout que c'est particulièrement mal montré, puisque au-dessus il y a une peinture de Pino Galizio.
C'est pas le même endroit. Elle est plus loin, la peinture de Pino Galizio.
Non, elle est au-dessus. Non, elle est au-dessus.
Elle est plus loin.
Elle est pas au-dessus du Zimbabwe. Mais un autre relevé. Donc ça, à mon avis, c'est une erreur de mettre ces facsimilés. Il y a d'autres erreurs de ce type dans les choix d'œuvres qui personnellement m'ont dérangé. Par exemple, il y a une lithographie de Christian Jacquard, qui est un très bon artiste. Sur les outils, on aurait pu voir une belle œuvre de Christian Jacquard et non pas cette petite lithographie. Il y a aussi pour moi la rencontre entre la sculpture de Louise Bourgeois, Cumul 1, qui n'a à mon avis rien à voir avec la préhistoire pour le coup, et l'installation de Michel Barcello sur les vitres du Centre Pompidou, qui me paraît bâclée le principe est intéressant, c'était intéressant de faire venir Barcello pour faire cette installation, mais là il fait un grand autoportrait mangé par la barbe qui à mon avis là
sur
aussi
les vitres,
m'a dérangé
sur les vitres extérieures du
centre Pompidou. Pompidou. Néanmoins, pour finir par une note positive, parce que j'encourage vivement les auditeurs à aller voir cette exposition comme vous tous, parce que il y a des passages absolument absolument fabuleux. Je voudrais juste dire qu'il y a notamment des artistes singuliers qui sont trop peu souvent montrés, donc je voudrais le dire, c'est par exemple Alberto Savigno. Il y a deux toiles de Savigno, il y a de l'art brut notamment, ce que je trouve très intéressant, et c'est rare que le Centre Pompidou le fasse, donc vous le soulignez, ou les grands musées, parce que c'est une pensée des origines du monde comme des origines de l'art, et là je trouve que c'est très juste. Il y a effectivement un ensemble de Gavrichevski, mais moi j'ai découvert personnellement Levi Fischer M, c'est son cabinet de curiosité d'animaux préhistoriques sculptés dans le bois, que je ne connaissais pas et qui est particulièrement saisissant. Et puis effectivement, vous l'avez dit Arnaud, il y a des œuvres surprenantes de grands artistes qu'on croit bien connaître. Il y a des œuvres de, là, vous avez parlé des sculptures de Beuys de la fin des années 40 qui sont vraiment, vraiment splendides et effectivement confondantes. On pourrait croire des sculptures du paléolithique, mais il y a aussi des dessins de Michaud, d'Henri Michaud, qui sont vraiment, vraiment saisissants. Et puis, des photos de silex de Charlotte Perriand, que personnellement, je ne connaissais pas. Les logos neige et les logos glace de Christian Dautremont, l'artiste Cobra, et les galets sculptés de Brassailles. Globalement, en fait, on voit bien que la partie quand même la plus riche de l'exposition, en termes pour ce qui concerne l'art moderne, c'est quand même le fil qui se tend du surréalisme jusqu'à Cobra. Et là, il y a une histoire de l'art, effectivement, passionnante, qui s'écrit parallèlement à celle de la préhistoire.
Et puis, ils auraient pu en faire trop, une toute petite place pour le cinéma, mais bienvenue parce que le combat de King Kong avec son dinosaure, c'est quand même un grand moment. Buster Keaton en homme des cavernes, c'est bien aussi. Bon,
et puis
Marguerite Duras.
Oui. Marguerite Duras, oui, les mêmes négatives.
Mains négatives, quand même.
Et Garty de Winsor McCall.
Oui, ça a moins mes faveurs. Mais bon, donc voilà, ils en font pas trop. Une présence simple. Bon, allez voir, revoir plusieurs fois cette exposition, Préhistoire, une énigme moderne. Ça tombe bien, c'est jusqu'au 16 septembre au Centre Pompidou. Vous voulez dire un dernier mot, Corinne
Rondeau ? Non, mais c'est aussi une manière de se poser une question. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps ?
Notamment.
Pendant ce temps-là.
Et donc, puis, faites-vous offrir, achetez le catalogue édité par le Centre Pompidou qui pourra vous permettre de prolonger la visite, de la préparer. Et le livre.
Parce qu'il y a toute la continuité des artistes qui sont dans l'exposition.
Absolument. Oui. Déjà cité, tout ça sera évidemment sur notre site internet, à la page de la dispute sur le site de France Culture. Nous allons parler, dans la suite de cette émission, de Georges Dorignac, de Jérôme Zonder, et d'Alex Katz et de Monet.
France Culture, la dispute, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette dispute avec Georges Dorignac, Corps et âme. C'est jusqu'au 8 septembre au musée de Montmartre. Les commissaires en sont Marie-Claire Mansensal et Saskia Homs. Scénographie, atelier Massiège Fischer. Après des expositions à la piscine de Roubaix, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, c'est donc au tour du musée de Montmartre d'apporter sa pierre à la redécouverte de Georges Dorignac, né à Bordeaux en 1879, mort à Paris en 1925, avant la Première Guerre mondiale, il va côtoyer Chagall, Modigliani ou Soutine à La Ruche, ce phalanstère d'artistes dans lequel Stéphane Correard, je crois, avait ses entrées. Il exposera, non pas Stéphane Correard, mais Georges Dorignac, notamment chez Durand-Ruel. Alors pourquoi a-t-il été oublié ? Faut-il le redécouvrir ? On va aussi en parler avec nos critiques. Un premier tour de table. J'essaie d'attirer votre attention, Stéphane Correard, pour nous donner une première impression.
Ah bon, en ce qui me concerne, c'était vraiment une découverte réjouissante d'un artiste qui, comme on dit, n'était pas prévu au programme.
Naïl Pija.
J'allais parler de la joie d'une surprise, mais mon camarade me coupant l'herbe sous le pied, je parlerai d'une série formidable et de curiosité décorative.
Corinne Rondeau.
Noir, c'est noir.
Georges d'Aurignac. Il a bien le nom de son époque en même temps, ça ne s'invente pas un nom pareil. Ça pourrait être un personnage de roman, moi je pensais que c'était peut-être un personnage fictif, Georges d'Aurignac. Vous ne trouvez pas que ça sonne particulièrement bien? Bon, qu'est-ce qui... Je vous livre mes impressions après tout. Hein. Qu'est-ce qui définit, Stéphane Corrière, le style de d'Aurignac? Dans quelle tendance est-ce qu'il s'inscrit?
Eh ben justement, c'est la bonne question, parce que d'Aurignac, qui est né en 1879, est mort en 1925.
Comme je viens de le dire pendant que vous écrivez sur votre téléphone.
Pas du tout. Je voulais juste rappeler, situer, qu'il est né 2 ans après Duchamp et 2 ans avant Picasso. Et que pourtant, il n'a vraiment participé à aucune des avant-gardes du XXe siècle. Et que l'exposition montre 3 manières, je dirais 3 périodes, 3 manières, parce que l'exposition est chronologique, qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Et on ne voit pas, l'exposition ne montre pas vraiment les transitions, comment ils passent de l'une à l'autre, ce qui rend les choses finalement encore plus passionnantes, ce côté heurté dans le parcours. Sa première manière, on va dire jusqu'en 1910, donc il a quasiment, enfin il a même une trentaine d'années, témoigne des influences d'Eugène Carrière, de Georges Seurat ou de Renoir, beaucoup de maternité, des peintures d'ailleurs, des maternités manifestement vécues. Il avait 4 filles, enfin, et manifestement, il
père de 4 filles en tout cas.
Voilà, oui. Manifestement, il les peint avec bonheur. Il est très sensible aux nuances de la lumière. On peut parler effectivement d'impressionnisme, mais la particularité, c'est qu'à ce moment-là, il est victime d'un vol par un escroc qui subtilise 5 ans de son travail et le signe de d'autres noms pour les écouler, d'autres noms plus prestigieux. Ce qui fait qu'ensuite, il y a une période où d'Aurignac est obligé de faire au kilomètre quasiment des aquarelles un peu post-impressionnistes pour faire vivre sa famille. Donc c'est un peu ça la première période. Jusque-là, rien de très fracassant, je dirais. Et puis brutalement, à partir de 1910 jusqu'en 1915, il rentre dans sa période noire, comme... Corinne l'évoquait, des nus, des détails anatomiques ou des portraits très monumentaux, massifs, au fusain, à l'encre noire, qui ressemblent à rien de vraiment ce qu'on connaît dans l'histoire de l'art. Rodin aurait dit il sculpte le dessin à propos de cette période. Et puis après 1915, nouvelle rupture, et là ce sont des travaux d'art décoratif qui étaient mal connus parce que la plupart n'ont pas été réalisés, mais ce sont des projets souvent de grand format pour des tapisseries, des mosaïques, des laques, il a collaboré avec le décorateur Jean Dunant, des céramiques, des vitraux, et qui témoignent là d'une forme de syncrétisme et d'une attirance pour une forme de spiritualité. Voilà,
une belle présentation, et on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du débat avec Annaëlle Pigeat. Est-ce qu'il faut redécouvrir Georges d'Aurignac?
J'ai trouvé que l'exposition commençait de manière un peu difficile, parce que toute cette première période que Stéphane vient de décrire ressemble quand même à beaucoup de choses en moins bien. Ça ressemble aux maternités de Marie Cazat, les paysages ressemblent à Seurat, il est fasciné par Millet. Il y a une série aussi qui est un peu moins bien, que j'ai trouvé un peu moins bonne, un peu plus tardive, sur des haleurs au bord de la Seine. La série qui est aussi très inspirée de Degas, des danseuses, moi, ne m'a pas éblouie. En revanche, pour une série qui est cette série des têtes noires, des têtes d'ombre chinoises, absolument, il faut aller au musée de Montmartre et aller voir ces images qui, effectivement, ne ressemblent à rien d'autre, qui ressemblent quand même... Il est fasciné par Rodin, les figures noires de Rodin, dont on avait d'ailleurs parlé dans l'émission à propos de l'exposition des figures découpées de Rodin, ne sont pas complètement étrangères à ce travail, même si, en même temps, c'est plus un travail qui est proche du monotype et du travail sur la lumière et de la réserve laissé en blanc sur le papier qui se rapproche du travail sur le monotype. Il y a au sein de cette série 2 sous-séries, disons, une qui est complètement en noir et blanc, travail au fusain, une qui mélange de manière très étonnante la sanguine et le fusain. Alors il y a aussi des sanguines qui sont très belles, une sorte de tête de prophète, enfin de tête d'homme comme ça, de vieil homme barbu. Qui est très réussi. Mais en fait, c'est étonnant parce que ce mélange du orange et du noir, c'est aussi les couleurs des vases grecs. Alors, ça n'a rien à voir avec les vases grecs non plus. Mais il y a une vraie singularité dans ce travail. Ah, Corinne Rondeau dit quelque chose. Et puis, la deuxième raison pour laquelle il faut aller voir cette série, c'est la bizarrerie de son travail décoratif.
On en parle dans un deuxième temps, parce qu'on reste sur les têtes noires. Corinne Rondeau, peut-être.
Oui, oui, le type est très étrange, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il se cherche, il arrive, il dit Rembrandt, Millet, Seurat. Voilà, ce sont mes maîtres. Effectivement, il y a du paysage, il y a du Renoir, il y a du Cazat. Enfin, on voit bien, mais il y a quelque chose qu'on voit pas en rentrant
que les noirs, les fusains, vont nous faire voir après coup. C'est-à-dire que les maternités, cette mère qui tient ses enfants, il faut regarder comment elle met l'avant-bras sur les cuisses de ses enfants. La manière dont la tête touche la tête de la mère. Et on voit déjà le corps, parce que c'est massif et c'est dans la gravité. Lorsque vous n'aimez pas des haleurs ou les haleuses, voire même les laveuses qui sont au bord de l'eau, où il y a déjà une mise en œuvre de l'absence de perspective du Moyen-Âge, vous savez, il n'y a pas de profondeur. Donc en fait, on met les choses au fond, en haut. Et donc, il y a deux laveuses comme ça, et puis vous avez des oiseaux qui sont au niveau des épaules. Enfin, ils disent, bon, il a perdu la perspective, alors qu'il sait faire un paysage, il sait faire une perspective. Donc, il annonce déjà, on dirait, quelque chose de ce Moyen-Âge, de cet Orient qui va passer dans les décors sacrés. Mais ce qui est le centre, c'est ces noirs, c'est ces portraits qui sont massifs. D'ailleurs, il y avait une exposition à Bordeaux, au musée des Beaux-Arts, et qui était le très sculpté. En 2017, qui est donc venu ici avec un peu moins de noir peut-être que prévu. Parce qu'effectivement, c'est la zone, si vous voulez, où l'intérêt de d'Aurignac pour Rodin, puisqu'il y a eu une correspondance entre eux, il y a eu des visites de d'Aurignac à Rodin, à Meudon. Et quand vous parlez peut-être des vases, mais je veux dire, Rodin collectionnait des vases grecs sur la question du travail du noir et de ces ocres. Alors, quand vous dites ça, j'ai levé la main en disant peut-être, on ne sait jamais. Oui, bah, parce que Rodin pose à je ne sais plus la question à qui en disant, mais est-ce qu'il a fait de la sculpture d'Aurignac? Et on dit oui, mais il cache ses sculptures. Donc on voit bien qu'en fait, il a trouvé quelque chose qui vient quand même après le vol aussi, même s'il change. Et il va vivre dans la misère, parce que tout allait bien avec ses maternités, tout allait bien pour lui. C'est-à-dire qu'il était dans le staff de ce qui se vend, dans le mouvement. Et on le redécouvre aujourd'hui parce que justement, ça ne nous parle pas, mais ça nous tape un peu fort au niveau de l'œil, parce que c'est d'une très très grande puissance.
Juste ce qui est très troublant sur les vases grecs, c'est que le orange et le noir ne se mélangent pas, comme sur les vases.
Stéphane Correa.
Alors effectivement, cette période noire de d'Aurignac est très singulière, comme j'ai dit, par rapport à l'art français de son temps, et même d'ailleurs à l'art international. Néanmoins, elle est très cohérente avec son parcours, enfin ses origines, son parcours antérieur, parce que Jeanne Carrière, c'est quand même le monochrome, le gris, sera. Cette forme de hiératisme, quand on regarde les crayons de Seurat, on n'est pas loin de cette forme de massivité, monumentalité, même dans des petits formats. Dès 1903, il y a un dessin qui est très beau, qui est le combat de chèvres en clair-obscur dans la forêt.
Oh là là, éblouissant.
Et là, c'est déjà en germe tout l'art de d'Aurignac, mais il est aussi en avance, parce que moi, je pense que, quelque part, ça annonce le travail, le retour au néoclassicisme de Picasso, qui viendra presque 10 ans après, enfin à partir de 1917, où Derain, ces femmes, comme ça, très hiératique. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, il y a effectivement cette tête d'un côté, c'est nu féminin. Et puis, il y a deux dessins absolument sublimes, je trouve, qui sont d'authentiques chefs-d'œuvre. Deux dessins de nu noir, où le corps prend toute la feuille, se heurte réellement au bord de la feuille et dessine une espèce de forme abstraite, massive, extraordinaire. Et puis, on s'approche et l'œil s'acclimate et on commence à regarder, effectivement, voir le modelé des muscles, des formes, etc. Et ça, c'est absolument sublime.
Sur les arts déco, je vous ai interrompu, Annaëlle Pigeard.
Sur les arts déco, alors, période suivante, il est dans un état, dans une situation compliquée, il doit faire des choses alimentaires, il ne peut pas voyager, et alors c'est une sorte de voyage immobile. Il réalise tout un tas de décors qui ne sont pas forcément réalisés. Il y a une grande composition qui est un carton de tapisserie inspiré par l'histoire de Jeanne d'Arc. On a l'impression de voir les petits c'est de la Dame à la licorne de d'Aurignac, alors on voit les fleurs, les petits lapins, des détails absolument, absolument saisissants. Et puis il y a un côté aussi extrêmement drôle dans une sorte de grand mandala qui est une sorte de chose auto-référencée, c'est-à-dire que apparaissent au cœur du mandala des citations de d'Aurignac par lui-même. Il y a un tigre extrêmement sympathique qui ressemble, on ne sait pas très bien s'il l'a vu parce qu'il visite beaucoup de musées, donc il va au musée Guimet, il va au Louvre, il est inspiré par le style byzantin, évidemment tout ça c'est et il y a dans cette dernière partie une bizarrerie qui est totalement différente des parties qui précèdent. et qui est aussi assez singulière et très passionnante.
Elle vous a réjoui cette partie-là, Stéphane Coréard ?
Oui, effectivement, parce que quand on arrive notamment devant ce projet de tapisserie de l'histoire de Jeanne d'Arc, on ne sait pas si on est devant de l'art moderne naïf, je dirais presque Denis Rousseau, si on est devant une tapisserie médiévale ou si on est devant de l'art byzantin. On est complètement finalement perdu et je trouve qu'on est très proche. Et moi, c'est ce qui m'a, le sentiment qui m'est resté après avoir visité l'exposition, c'est que c'est une forme d'artiste brut d'une certaine manière. D'ailleurs, dans cette période décorative, il est très très proche d'artistes comme Scotty Wilson par exemple, ou Roman Enkhoff. Il y a effectivement un syncrétisme, il veut, dans son mandala, il convoque toutes les religions, les signes du zodiaque, des symboles du monde entier. Et j'ai pensé, à de l'art brut, j'ai pensé à un artiste comme Louis Souter et ses peintures de doigts, beaucoup plus d'ailleurs que dans les peintures de doigts de Zonder dont on va parler après. Mais dans cette évolution comme ça, heurtée, à la fois cette grande singularité et entre les peintures de doigts de Souter et les grands nus noirs de Dorégnac, il y a une forme de cousinage.
Corinne Rondeau. Non,
l'idée d'art brut apparaît immédiatement quand on arrive dans ça, parce que c'est un décrochage énorme. Et on sent en fait qu'il n'avait pas... Ces noirs dont vous parlez, ces nus dont vous parlez, on dirait du Henry Moore, des dessins de Henry Moore. Et c'est vrai qu'il faut s'approcher pour que le corps vienne. Et je pense qu'en fait, il n'était pas de son temps pour que ces corps, ces zones, ces masses deviennent autre chose, peut-être parce qu'il voulait rester dans la peinture. Et il y a comme un décrochage, comme si sa tête était prise dans quelque chose d'autre. Et moi, j'ai même pensé qu'il avait, qu'il était même quelque chose de la psyché chez lui qui était tourné, parce que d'ailleurs il déclare à un moment donné dans une lettre qu'il est tellement habité par ce qu'il fait qu'il en viendrait même à pas pouvoir nourrir sa famille, et il ne veut pas les rendre malheureux. Donc il y a quelque chose d'un... Je souscris à tout ce qui a été dit, et je me réjouis quand même d'avoir vu ces noirs extraordinaires.
Le post-scriptum de Stéphane Coréard.
Il y a une chose que je trouvais magnifique, c'est que ces quatre filles ont épousé quatre artistes, et je trouve que c'est quand même une histoire de transmission et de modèle que je trouve magnifique.
Non, j'aurais dit. Les enfants des filles.
Dans le genre de rapprochement très étonnant, il y a à un moment donné une étude de nu, un corps comme ça très déchiqueté de femme de 1913, et on peut quasiment le superposer à l'autoportrait nu d'Egon Schiele. Autre point de rapprochement inattendu.
De la même époque. Georges Dorignac, Corps et âme. C'est le titre de cette exposition. À découvrir, elle, jusqu'au 8 septembre au musée de Montmartre. C'est l'heure du coup de cœur. Ce soir, c'est celui d'Anaël Pijat qui bat pour Contrepoint Contemporain. C'est au musée de l'Orangerie à Paris jusqu'au 2 septembre. Et ce contrepoint se joue entre Alex Katz et Monet.
Absolument. C'est un coup de cœur pour deux tableaux et pour cinq esquisses. C'est une sorte de dialogue entre l'artiste américain Alex Katz et les nymphéas de Monet, que Monet avait installé lui-même, et c'est important de le souligner, au musée de l'Orangerie. Alex Katz est surtout connu pour ses grandes figures pop, peintes à partir des années 60, souvent des femmes, belles et élancées dans des teintes claires, en fait ce sont des pin-up américaines. Souvent c'est sa femme Ada qui pose pour lui, qui continue aujourd'hui de l'accompagner à chaque instant. Mais il y a aussi dans son travail un pan un peu plus intime qui a trait au paysage et qui commence au début des années 50, qui dure encore aujourd'hui d'ailleurs. La série qui nous occupe commence en 1986 et les tableaux qui sont accrochés à l'orangerie date de 2009. Ce sont des vues des temps qu'il a réalisées près de sa maison du Maine, aux États-Unis. Katz, dans toute son œuvre, a peint énormément de plages, de vagues. L'eau est pour lui un thème fondamental et qui trouve évidemment un écho saisissant dans l'œuvre de Monet. Alors, ce sont des toiles avec des fonds sombres, des contrastes souvent très stridents, très musicaux entre les noirs et les jaunes. On a l'impression au premier coup d'œil que ces toiles sont assez immobiles, assez contemplatives, mais en fait, comme les nymphéas de Monet, elles sont animées de mille mouvements, alors des mouvements assez différents. Il y a des splashes assez évidents dans des esquisses qu'il a peintes sur le vif, en plein air, c'est important aussi. Et puis, il y a des choses plus frémissantes, des mouvements plus imperceptibles dans le grand tableau, qu'il a réalisé au contraire de retour à l'atelier d'après des photographies. Alex Katz raconte avoir découvert les nymphées en 1965. à l'occasion d'un voyage de vétérans de l'armée américaine à Paris. C'est lui qui les a accrochés à Paris, à l'Orangerie, à l'invitation de Cécile Debray, la directrice des lieux. Accrochés de manière remarquable, les esquisses au grand jour, dans la petite salle qui précède la salle des nymphéas, qu'on appelle à l'Orangerie le pronaos, d'une manière assez religieuse, que je trouvais sympathique aussi. Et puis la plus grande toile dans une salle à part, éclairée à la lumière artificielle, en bas, au début du parcours des collections. Et finalement, on a l'impression, en visitant cet accrochage, de se promener avec lui dans les salles du musée, presque de participer à sa conversation avec l'histoire de l'art, avec Monet d'abord, mais aussi avec Manet pour ses noirs très intenses, avec Degas pour les mouvements de ses danseuses, pour ses cadrages serrés, avec Pollock pour la spontanéité de ses gestes. On a l'impression qu'Alex Katz a dansé autour de ses toiles, et d'ailleurs, il travaille en ce moment à une série inspirée de photographies de danseurs qu'il a fait posé dans son atelier à New York. C'est une exposition succincte et intense, un petit pèlerinage qu'il ne faut pas rater.
Pas rater jusqu'au 2 septembre au musée de l'Orangerie à Paris, ce contrepoint contemporain d'Alex Katz avec les nymphéas de Monet.
France Culture, la dispute. Laporte.
La dernière exposition à notre sommaire ce soir, c'est celle de Jérôme Zander, portrait aux Beaux-Arts de Paris dans le cabinet des dessins Jean Bonnat. C'est Emmanuel Brugerolles qui en est la commissaire. On a parlé de dessin avec Dorignac, cette forme, c'est celle qu'a choisie depuis longtemps Jérôme Zander, né en 1974. On va l'écouter lui d'ailleurs, dans un extrait du documentaire que Jean-Nicolas Chausser a consacré à Jérôme Zander.
Le dessin prime et pas le résultat de l'image. C'est le dessin en travail qui est plus important. Et le fait d'avancer ces questions-là, qui est pour moi premier, c'est pas d'arriver à... Ce qui m'intéresse, c'est de dessiner, c'est pas de faire des dessins. C'est vraiment différent. Au lieu d'être sans arrêt le sujet des narrations dans lesquelles on nous jette, mais que ce soit la télé, le métro, les pubs, les machins, les trucs, et ben moi je reprends en main mon rôle de narrateur et je réarticule toutes ces données-là de façon à donner du sens au fait d'être ici maintenant, quoi. Je pense que c'est notre boulot à tous de régler cette espèce de relation avec le passé et puis d'arriver à tourner la lunette vers l'avenir, mais en travaillant et s'en donner les moyens. Ça veut dire se tenir debout en tant qu'être humain.
Alors, comme j'ai mal préparé mon émission, c'est encore Anaëlle Pijat qui a la parole. J'essaye de varier normalement. Mais parce que c'est à vous que j'ai demandé de préparer cette question pour expliquer à nos auditrices et auditeurs quelle était la proposition qui a été faite par les Beaux-Arts de Paris à Jérôme Zander. Donc, courte explication.
Courte explication pour une exposition un peu courte, effectivement.
Non, mais c'est pas un commentaire, c'est une explication.
Une explication. Jean de Loisy.
La commande.
La commande, c'est une invitation à dialoguer avec les collections des Beaux-Arts, faite aux anciens diplômés.
C'est bien, c'est la version très très courte. Vous pouvez ajouter quelque chose.
S'ensuit un accrochage d'une nouvelle série d'œuvres de Jérôme Zander, une série de 18 portraits, faites au fusain comme il en a l'habitude, appliqués au doigt, et qui sont accrochés en dialogue avec deux œuvres des collections, un portrait de Hyacinthe Rigaud et un portrait de Regnault, et qui créent un dialogue qui n'en est pas vraiment là, mais vous allez dire que je rentre dans le...
Absolument. Donc je donne la parole à Corinne Rondeau pour rappeler que Jérôme Zander a l'habitude, on a un peu entendu là, de réaliser ses dessins en partant de photographies. Et vous me rappelez, Corinne Rondeau, je ne vous ai pas demandé le petit tour de chauffe, c'est ça? Vous voulez faire un tour de chauffe d'abord? Et Corinne Rondeau, sentiment général sur l'exposition. Laisser passer la parole un peu plus loin donc. Commentaire, tour de chauffe.
Désappointement.
Désappointement, en trois mots.
Mais
Stéphane Correa.
Je l'emprunterai à quelqu'un qui m'a dit juste avant de rentrer dans le studio qu'il était allé voir l'exposition et que le plus intéressant, c'était le trajet en scooter.
Ouais, je crois reconnaître la personne qui vous a dit ça. Et Anaëlle Pijat, je crois qu'elle l'a déjà laissé entendre ce qu'elle en pensait. Corinne, alors, je le disais. Cette personne est de l'autre côté de la vitre, hein, qui possède un scooter. On entend le nom chaque soir dans la désannonce de cette émission. Bref, il fait des dessins généralement à partir de photographies ou d'images, comme il l'expliquait un peu succinctement dans l'extrait du documentaire qu'on a entendu. Alors cette fois, quand même, changement. Mais des modèles vivants dans son atelier. Qu'est-ce que ça change et en quoi, voilà, qu'est-ce que ça produit dans son travail?
De toute façon, ça change tout le temps chez Zonder. Il faut pas non plus, on peut se dire que c'est, moi, je dirais désappointé parce que c'est d'abord, la salle d'exposition est une horreur. Il faut le savoir, on sait pas ce qu'on peut, c'est quand même des salles de bureau, hein, où on va effectivement consulter aussi cette collection de dessins. Bon, c'est pas facile. Vous avez un accrochage en bois pour les portraits qui sont des études. Où il y a normalement 3 fois 45 minutes pour les études. Et ensuite, on a des grands dessins qui sont, eux, à punaiser ou à accrocher sur des grands formats. Alors, c'est la première feuille. Pardon, c'est la première fois, ça ne va pas du tout aujourd'hui. C'est quand même la première fois que je vois le plus de réserve dans le dessin de blanc, on va dire, chez Zonder. Moi, je l'ai rencontré vraiment à son exposition à Maison Rouge, Fatoum, où en fait on était confronté à du mur complètement, on était pris. Et effectivement, il y avait une culture pop, il y avait de la violence, il y avait la perte de l'innocence, il y avait une sorte de montage de certains nombres de signes à l'intérieur, une sorte, pas de critique, mais en tout cas d'une sorte de vision du monde contemporain à travers une histoire aussi. Et puis, on a eu ce passage à la pulpe de doigt et à la poudre de fusain. Et il avait repris les photographies de Buchenwald qui, moi, m'avait terrorisée. C'est comme ça, d'ailleurs, j'avais pris contact avec lui parce que j'ai fait un blackout après cette salle à la Maison Rouge. Et donc, je suis ce travail. Effectivement, une des dernières expositions qu'il avait fait chez Eva Aubert, moi, j'étais fascinée par ce montage de dessins de divers types de travail, où le travail de la pulpe est quand même, je veux dire, c'est Zonder, c'est jamais un dessin qui fait plaisir à voir. Qu'il soit dans la virtuosité de la mine de plomb qu'il a abandonnée désormais, peut-être le reprendra-t-il parce que c'est toujours de la progression du travail, il a d'un coup abandonné ce montage pour faire que le montage de dessin au mur devienne un mur lui-même. Là, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas la radicalité de son travail à cause de l'espace d'accrochage. Il y a trop de choses dans cette salle où j'aurais préféré effectivement une sorte de vide où il y aurait une radicalité du dessin, même si je vois que ce que fait Jérôme Zonder en ce moment, c'est, avant c'était l'image, travailler l'image, la photo, le pop, la BD, etc. Et là, il va au corps. Et la question de la pulpe des doigts, qu'il avait fait ce travail au bout de l'empreinte, qui maintenant tire, il tire d'ailleurs, il dit « je cherche l'origine de la ligne » en tirant de sa pulpe dans la poudre de fusain. Enfin, c'est une sorte d'énigme à lui tout seul. Effectivement, j'ai l'impression que Jérôme Zonder va vers le dessin pour aller vers des corps qui ont toujours été au centre de son travail.
Stéphane Coréard.
Oui, alors effectivement, c'est de la poudre de fusain, de la poudre de graphite qui sont comme ça, qui composent ces portraits de deux manières, vous l'avez dit Corinne, soit par une sorte d'essuyage, comme s'il s'essuyait les doigts. Le résultat est quand même très, pas photographique, mais en tout cas finalement assez réaliste, hein, même assez virtuose, on peut dire. Donc souvent, notamment les autoportraits sont faits par essuyage, mais souvent c'est plutôt des empreintes digitales qui font comme des points en fait juxtaposés, ce qu'on voit dans le portrait de Frida Kahlo par exemple, ou enfin Frida, parce que d'ailleurs il y a les titres des dessins, c'est uniquement les prénoms. Le résultat en fait, je disais virtuose.
Il n'y en a que deux, hein.
Et finalement,
Virginie et Frida. Le reste, c'est pas de l'empreinte, c'est de l'utiliser.
Il y a aussi des empreintes. Il y a aussi des empreintes, mais vous avez raison. Moins. C'est les seules qui sont constituées uniquement d'empreintes. D'ailleurs, c'est les deux qui ont été faits d'après. Intégralement d'après photo, alors que d'autres ont été aussi été faits, en tout cas commencés d'après photo, comme les portraits de Jean-Claude. Je dis Jean-Claude puisqu'il s'appelle Jean-Claude dans le titre. Bon, ceux-là, en tout cas, avec les doigts, il rappelle vraiment les dessins de Chuck Close, qui lui aussi a évolué finalement de l'hyperréalisme vers cette porte de sorte de pointillisme, si on peut dire. J'ai aussi pensé aux toiles enfumées de Docoupil des années 90.
Mais qu'est-ce que vous avez vu?
Eh ben, ce qui m'a profondément en fait déplu, choqué, je dirais, c'est que c'est la posture. C'est vraiment un travail de posture. C'est-à-dire que d'ailleurs dans le catalogue, Baptiste Brun qui signe un texte assez désagréable. Je trouve, convoque tous les punks du dessin. Alors, il parle notamment de Philippe Villemin, que j'adore, dont il loue les hachures toutes organiques. Alors, j'ai relu tous les albums de Villemin, ce qui m'a pris un peu de temps, mais j'ai vu aucune hachure organique, mais on doit pas lire les mêmes albums. Il parle aussi de Bruno Richard, de Elles sont de sortie, le comparse de Pascal Dory, et il dit que Zonder est un artiste de la résistance, qui fait figure de trouble-fête dans un paysage de l'art contemporain, qui auto-célèbre son vide avec cynisme. Donc, cette posture de résistance, personnellement, je ne l'ai pas vue du tout dans cette série-là de Zonder, ni dans l'exposition, qui, au contraire, est une série extrêmement académique, de mon point de vue, dans un contexte encore plus académique. Donc, je trouve que tout ça se redouble de manière extrêmement désagréable. Académique, le dessin, pourquoi? Parce que, on sait bien, l'académie, c'est la primauté du dessin sur la couleur, l'imitation, et puis l'exaltation de la virtuosité technique, tout ce qui est à l'œuvre ici. Dans ce contexte, c'est spécialement malvenu, à mon avis, parce que ce cabinet de dessin Jean Bonnat, qui est nommé, au passage, d'après un banquier suisse qui a mécéné cet endroit, et dans cette école, dont il est un ancien élève, qui est une école qui elle-même parfois a une certaine tendance à l'académie. D'ailleurs, je signale à nos auditeurs que Jean de Loisy a pris comme première décision en arrivant de que les professeurs artistes qui partent à la retraite voient leur éloge prononcé dans l'amphithéâtre d'honneur entièrement doré, là rénové grâce à l'argent de Ralph Lauren. Et donc,
mais vous ferez pas mon éloge quand je quitterai l'émission.
Écoutez, si vous êtes
moi, j'aimerais
vous-même.
Bien, moi.
Et puis, on est à côté de l'académie des Beaux-Arts.
Mais je crois qu'il y en a qui reviennent, à titre gratuit aussi. C'est une info.
Enfin, elle parle de beaucoup de choses, Stéphane Correa, mais peu de l'exposition, il reste peu de temps et on n'a pas encore entendu le commentaire d'Anaëlle Pijat.
Oui, je voulais revenir à cette question de la transmission parce que l'un des points de départ de l'exposition, c'est de faire un lien entre les étudiants de l'école, les artistes diplômés et aussi les collections. Donc il y a plusieurs générations qui sont confrontées. Or, je trouve que ce rendez-vous-là est un peu manqué dans l'exposition. Je parlais de manière imprécise tout à l'heure. Les deux œuvres des collections qui sont accrochées sont un portrait d'Henri Regnault de Thomas Couture et le portrait de Pierre Gillet par Hyacinthe Rigaud. Et c'est Jérôme Zonder est un artiste dont le travail a souvent été mis en dialogue avec des œuvres anciennes. Il avait participé par exemple à l'exposition à Chantilly en 2017,
Massacre des Innocents.
Il a dialogué avec Tinguely-Abal, avec Guernica, avec Delacroix en ce moment. Mais en tout cas là, alors c'est probablement la disposition des lieux qui est pour beaucoup, mais le dialogue ne s'établit, je trouve, pas vraiment entre le travail de Zonder et ces deux œuvres, sachant que le sujet commun, la raison pour laquelle ils sont rassemblés, c'est la question du portrait. Et cette question du portrait est une chose aujourd'hui assez étonnante et assez présente chez les jeunes artistes. Ce qui est troublant, c'est un peu là le jeu aussi des reconnaissances. Alors, il peint ses proches, évidemment, le portrait, il prend pour modèle ses proches, c'est une chose ancestrale, évidemment.
Oui. Mais pas faire semblant de connaître des gens qu'il connaît pas pour que ce soit pas des gens que vous connaissez peut-être, mais que la plupart des visiteurs ne reconnaîtront pas.
Absolument. Mais il y a un petit côté rendez-vous qui peut surprendre.
Mais je trouve que vous l'accusez de beaucoup de choses, Jérôme Zonder, et notamment sur cette exposition. Il fait de l'académie dans le lieu de l'académie, ce qui me paraît assez raccord. C'est peut-être presque une forme d'ironie, mais ça, c'est moi qui projette. Non, mais que ses proches soient ces gens-là, qu'est-ce que ça peut faire aux visiteurs qui ne connaît pas leur figure? Alors, elles reconnaîtront Virginie Despentes ou Frida Kahlo, parce que celles-là, on les connaît peut-être davantage, mais où est le souci, Stéphane Correa?
Ça ne vous pose pas de problème, Arnaud, et vous avez parfaitement le droit. Moi, ça m'en pose, effectivement, quand je vois un portrait de Laurent Lebon parmi d'autres collectionneurs et d'autres professionnels de l'art qui sont là. Je trouve que c'est pas à mon avis, c'est une erreur, c'était pas l'endroit où faire ça. Quand je vois ce portrait et qu'ensuite je vois dans le catalogue un texte, si je puis dire, de Laurent Lebon, qui prend une page et qui, en fait, comme il le fait maintenant de plus en plus souvent, des acrostiches. Donc il y a 12 mots, une suite de 12 mots dont les premières lettres écrivent Jérôme Zonder. Je vais vous dire juste Zonder, parce que je ne vais pas tout vous dire. Zin, obsession, noir, dessin, énergie, résistance. Donc on est encore dans la résistance, soi-disant. On est plutôt dans l'entre-soi. Je le dis pour nos auditeurs, parce que moi je suis allé vérifier, parce que je ne savais pas Zin, ça veut dire qu'il n'a pas un poil blanc.
À vérifier ça, peut-être. Un dernier mot, Corinne Rondeau?
Non, je suis d'accord. Il y a des portraits que nous, on a reconnus. Mais je les ai tous reconnus. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu serré le poil blanc.
Le poil blanc.
Voilà.
Vous n'êtes pas un, vous.
Non, mais c'est à cause justement de ces rapports. Voilà. Et en plus, Jérôme Zonder est vraiment le type qui n'est pas du tout dans la modernité, ni dans la. C'est ça qui est aussi un peu paradoxal, mais je... De toute façon, cette exposition est inactuelle, c'est pour ça que j'ai dit désappointée, j'étais désappointée. Il est dans l'inactualité de son propre travail, et en même temps, je crois que cette inactualité, c'est quand même une recherche d'un événement, et d'une révolution à travers ce qu'il cherche, et qui est... Je pense qu'il est en train de remonter le temps, et parce qu'il recherche de l'histoire, et à travers le corps cette fois-ci, non pas les images de corps.
Jérôme Zander, l'exposition s'appelle Portrait, elle est visible jusqu'au 29 juin aux Beaux-Arts de Paris. Avant de conclure cette dispute, le jeu du même nom, de la même émission, avec Joséphine Dumoulin, qui nous rappelle d'abord la question d'hier au soir.
La question était: auprès de quelle chorégraphe flamande Eleanor Bauer s'est-elle formée lors de ses études de danse à Bruxelles? Et la réponse était Anne-Thérèse de Kersmaeker.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Paris romantique 1815-1848, c'est à voir au Petit Palais, et au Musée de la vie romantique à Paris jusqu'au 15 septembre. Quelle est la question, Joséphine?
Comment appelait-on au XIXe siècle le quartier parisien privilégié de l'élite du mouvement romantique français?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin, prise de son Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute où vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Philippe Chevillé, Grégoire Leménage et Laurent Nunez. Nous parlerons de Floride de Lauren Groff, Dites-lui que je l'aime de Clémentine Autain, Je ne sais rien d'elle de Philippe Mézéscaz et de la sortie en Pléiade de Dracula et autres écrits vampiriques.